La question blanche, première partie. Le mal-être raciste. Ce texte, le premier que j'écris à la première personne, est le résultat d'une sollicitation des indigènes de la République pour une intervention à leur Parlement anticolonialiste d'octobre 2006. Après deux indigènes noirs et arabes répondant respectivement aux questions « Qu'est-ce qu'être noir dans la France de 2006 ?» et « Qu'est-ce qu'être arabe dans la France de 2006 ?» je devais répondre à la question « Qu'est-ce qu'être blanc dans la France de 2006 ?» L'une des raisons pour lesquelles cette proposition m'a paru intéressante est son caractère déconcertant et difficile. Jamais, jusqu'à un passé récent, je ne m'étais posé une telle question, car jamais on ne m'avait amené à me la poser. C'est du reste la première réponse qu'on pourrait apporter. Premièrement, être blanc, c'est ne pas avoir à se poser la question « Qu'est-ce qu'être blanc ?» C'est ne pas avoir, contrairement aux Noirs, aux Arabes et aux autres non-blancs, à s'interroger sur soi-même, sur son identité, et la place qu'on occupe dans la société, parce que cette place, en quelque sorte, va de soi. Du moins, cette place va de soi, dans la mesure où, en plus d'être blanc, je suis de sexe masculin, hétérosexuel et d'origine sociale aisée. À peu près tout ce que je vais dire sur ce qu'est être un blanc peut s'appliquer à être un hétéro, être un mec ou être un bourgeois. Être blanc n'est en effet pas simplement une affaire de couleur de peau. Jack Lang ou Jacques Séguéla, par exemple, ont le teint plus mat que beaucoup d'Arabes, d'Antillais ou de Métis, mais ce sont eux les blancs. Être blanc ne signifie pas simplement avoir la peau claire, mais plutôt ne pas être identifié comme un noir, un arabe, un asiatique, un turc, bref, ne pas être un indigène. Être blanc ne veut rien dire d'autre que ne pas porter certains stigmates, d'où une seconde réponse. Être blanc, c'est avant tout ne pas subir la discrimination comme les non-blancs la subissent. Ce n'est pas avoir une certaine couleur, mais occuper une certaine place, un certain rang social. Blanc n'est en effet pas une catégorie raciale, mais une catégorie sociale. La race est, comme la classe et le sexe, une construction sociale. Et le racisme, comme la domination économique et l'oppression sexiste, s'incarne dans une souffrance sociale. Ne pas trouver d'emploi ou de logement parce qu'on est noir ou arabe, être exclu de l'école parce qu'on porte un voile, etc., etc. La question raciale n'est donc pas dans un rapport d'altérité avec la question sociale, elle en est une composante. C'est tout l'intérêt d'un mouvement comme le mouvement des indigènes de la République que de l'avoir souligné. Loin d'ethniciser le social et la politique, comme on leur reproche, les indigènes font exactement le contraire. Ils socialisent et politisent la race. En fait, ils proposent une analyse sociale et politique d'un ordre symbolique et social racisé. Être blanc, pour des raisons multiples qui devraient paraître évidentes à tous, mais qui ne le sont pas et que je tâcherai d'évoquer, est plus confortable qu'être non blanc. Mais il existe pourtant un mal-être blanc, ou plutôt diverses formes de mal-être blanc. J'emploie cette formule en clin d'œil à deux livres de Dominique Vidal, « Le mal-être juif » et « Le mal-être arabe ». Indépendamment de l'intérêt réel de ces livres, j'ai toujours éprouvé un certain malaise lié à leur titre, car pour ma part, le plus urgent, c'était de parler du mal-être blanc. J'entends par là que les blancs sont malades d'une maladie qui s'appelle le racisme et qui les affecte tous, sur des modes différents, et même, j'y reviendrai, lorsqu'ils ne sont pas, à proprement parler, des racistes. Et ce racisme constitue en une oppression systémique, aux dépens par exemple des Arabes, et c'est cette oppression raciste qui engendre chez celles et ceux qui la subissent ce fameux mal-être arabe dont parle Dominique Vidal. Voilà donc un premier mal-être blanc, une première maladie qui s'appelle tout simplement le racisme et dont le stimulus extérieur est toujours le même. Le noir, l'arabe, bref, les non-blancs, ou plus précisément les non-blancs lorsqu'ils se pensent, s'expriment et se comportent comme des égaux. Car c'est bien la prétention à l'égalité, et non pas une simple différence de couleur, qui littéralement rend malade un nombre considérable de blancs. Cette maladie se traduit par des symptômes divers, qui peuvent s'apparenter entre autres à la névrose obsessionnelle, la phobie, la psychose, les crises de nerfs, cette forme exacerbée du mal-être blanc, dans lequel un Le Pen, un De Villiers, un Michel Houellebecq, un Alain Finkielkraut puisent leur inspiration, et j'ai pour ma part la prétention de l'avoir dépassé, même si l'emprise des préjugés racistes et leur réactivation politique et médiatique quotidienne exigent une vigilance de tous les instants. Mais j'ai eu l'occasion de connaître un autre mal-être blanc, celui des antiracistes. La question blanche, deuxième partie, le mal-être antiraciste. Il y a un mal-être raciste, mais il y a aussi un autre mal-être blanc, celui des antiracistes. Dans la gauche dite antiraciste, je suis en effet tombée sur des gens qui devenaient littéralement malades lorsqu'on les qualifiait de blancs. Ils manifestaient donc un mal-être blanc au sens le plus littéral, puisque c'est le simple fait d'être blanc, ou plus précisément d'être identifié comme tel, qui provoquait tout le mal. Alors qu'on m'entende bien, je ne parle pas de gens qui prendraient mal le fait d'être traités de « petits blancs », ce qui serait compréhensible étant donné qu'il s'agit d'une injure politique. Je parle de gens qui s'offusquent du seul fait d'être qualifiés de blancs, sans que ce constat, car c'est un constat, ils sont blancs, ait la moindre intention injurieuse. J'ai été surpris par exemple de la violence des réactions lorsque j'ai fait remarquer que certains plateaux télévisés étaient composés à 100% de blancs, ou quand j'ai décrit l'assistance d'un meeting des Ni Putes Ni Soumises comme une assemblée blanche. Cela s'est reproduit au MRAP, dont j'étais membre, et que j'ai fini par quitter, où on m'a plusieurs fois accusé de racisme ou de dérive ethniciste, pour avoir simplement constaté et problématisé le fait que les assemblées du MRAP sont quasi totalement blanches. On dit que lorsque le sage montre la lune, le fou regarde le doigt, et j'ai en l'occurrence la prétention d'avoir été le sage. J'ai pointé du doigt une discrimination systémique flagrante à l'encontre des non-blancs. Le fait qu'ils sont non-représentés ou bien sous-représentés, y compris au sein d'une association antiraciste. Et mes adversaires, au sein du MRAP, ont été les fous qui regardaient le doigt en me répondant très sérieusement que c'était moi le raciste, raciste contre les blancs présents dans la salle. Voilà donc ce que j'appelle le second mal-être blanc. Il existe une catégorie de blancs qui sont prêts à faire des efforts de solidarité avec les non-blancs, mais qui ne supportent pas que soit contesté leur privilège, leur monopolisation de la juste cause antiraciste, ou en tout cas, qui ne supportent pas d'être qualifiés de blancs. Ce qui est insupportable est d'abord le simple fait d'être particularisé, parce que nous avons été élevés depuis le berceau dans l'idée que nous représentons l'universel, l'homme tout court, l'homme achevé, l'homme complet, l'homme même. À tel point d'ailleurs qu'on parle des gens de couleur pour parler des Noirs, des Arabes et des Asiatiques, mais pas de nous-mêmes, comme si nous n'avions pas, nous aussi, une couleur, blanc. Ce qui peut être insupportable, c'est également de se représenter comme des privilégiés ou des dominants. C'est pourtant la vérité, mais cette vérité est insupportable, et donc cette remarque vaut, là encore, aussi bien pour des hommes, des hétéros ou des bourgeois. Cette seconde manière de vivre sa condition blanche, sur le mode de la dénégation, « je ne suis pas un blanc, nous sommes tous des êtres humains, les races n'existent pas », est sans doute la plus répandue. Elle peut se résumer par la formule suivante. Il n'y a pas de différence entre blanc et noir. Cet énoncé est à la fois vrai et faux. Ou plus exactement, il est vrai abstraitement et concrètement faux. Ce qui est vrai, c'est que les races n'existent pas en tant que réalité biologique, pas plus que les ethnies ou les cultures en tant qu'essence homogène. Mais ce qui est faux, c'est de nier toute existence à la race. En effet, si les races n'existent pas en tant que réalité biologique, elles existent bel et bien en tant que croyance collective. Et cette croyance se répercute dans la réalité sous la forme de paroles et d'actes, injures, discriminations, qui font que être blanc et être noir sont deux expériences très très différentes. En d'autres termes, il est vrai que nous ne sommes des noirs, des arabes ou des blancs, c'est-à-dire des êtres qui se réduisent à une couleur ou à une origine, que dans le regard de l'autre. Mais une fois cette évidence posée, le problème demeure, dans la mesure où toute existence humaine est une existence sociale, une existence avec les autres, une existence tout entière produite par les relations que nous tissons avec les autres, donc une existence conditionnée par le regard de l'autre. On pourra toujours dire qu'entre blanc et noir, il n'y a pas de différence. Mais entre blanc et noir, au-delà de la différence réelle ou supposée, il y a l'inégalité. Et c'est le déni de cette inégalité, ou plutôt l'écœurement devant ce déni, qui m'a fait accepter, avec un certain enthousiasme, la question que me posaient les indigènes de la République. Ce second mal-être blanc, ce refus d'être nommé blanc, n'est pas non plus le mien. Je ne me souviens pas m'être jamais mis en colère du simple fait qu'on m'ait qualifié de blanc, même si, bêtement, parce que programmé ainsi, il est arrivé que ça me fasse bizarre. Il m'arrive même de plus en plus de me qualifier moi-même de blanc, parce que telle est bien ma couleur. Et surtout, tel est mon rang social, tel est mon privilège. La question blanche, troisième partie. Le privilège blanc. J'en viens à un troisième mal-être blanc que je ressens profondément, celui-là. Le mal-être des blancs que l'appel des indigènes n'a pas rendu malade. Le mal-être des blancs que ne rend pas malade le fait d'être nommé blanc. Car si être nommé blanc et l'être par des non-blancs ne nous rend pas malade, nous avons pourtant nous aussi notre propre maladie. Une première manière de parler de ce mal est la manière bête et méchante de nos ennemis. Haine de soi, complexe, culpabilité post-coloniale. Un responsable national du MRAP a aussi jugé pertinent et spirituel d'écrire que j'étais, je cite, « un bounty à l'envers ». Blanc à l'extérieur, noir ou arabe à l'intérieur, ou du moins, se rêvant noir ou arabe avec en prime un voile sur la tête. Ce registre est assez classique chez tous les racistes. C'est l'idée banale selon laquelle le blanc qui se solidarise avec des non-blancs en lutte est un négrophile, voire un lécheur de nègres, comme on le disait aux États-Unis à l'époque des droits civiques. Que celui qui se solidarise avec des musulmans est islamophile. Il se trouve que ce n'est pas ça. Il se trouve aussi que je ne me sens pas coupable de crimes d'arrière-grands-parents colons, que par ailleurs je n'ai pas. Mon mal-être blanc est d'une autre nature. Il est lié à ce que c'est que être blanc en France en 2006. Parce que être blanc en France en 2006, en un mot, c'est être un dominant. Même si, comme pour tout dominant, être blanc, c'est aussi être élevé dans l'idée qu'on n'est pas dominant, qu'on est comme tout le monde, qu'on vit dans une société globalement égalitaire et que notre réussite n'est que le fruit de nos dons naturels et de nos efforts personnels. D'où une troisième réponse. Être blanc, c'est être élevé dans cette double imposture, dans un privilège exorbitant et dans la dénégation de ce privilège. Une imposture dont on ne peut s'extraire que difficilement et imparfaitement, par une assaise de tous les instants, en se mettant à l'écoute et en se laissant bousculer par des non-blancs de la même manière qu'on s'extrait tout aussi difficilement et tout aussi partiellement de sa condition de mec, d'hétéro ou de bourgeois. Pour donner un aperçu concret de ce privilège blanc, je partirai d'une expérience personnelle. J'ai été amenée au fil de divers engagements à écrire dans des journaux, dans des livres, sur Internet, à propos des violences policières et de leur impunité, ou encore de l'occultation du passé colonial, notamment du 17 octobre 1961, ou encore de la loi anti-voile. Sur chacune de ces trois questions, j'ai vécu une expérience similaire. Je me suis retrouvée dans cette situation assez gênante où des personnes directement concernées par ces questions, donc des descendants de colonisés, des gens dont les proches ont été victimes de violences policières, des filles voilées ou leurs frères ou leurs sœurs, qui me remerciaient d'une manière qui m'apparaissait démesurée ou paradoxale. J'entends par là que, oralement, par lettre ou par mail, ces gens me disaient, en substance, deux choses complètement contradictoires. D'abord, ils me remerciaient infiniment, comme on remercie en principe celui qui nous a sortis de l'erreur et qui nous a apporté un savoir et une intelligence du réel qu'on n'avait pas avant de le lire. Et puis juste après, ils me disaient que j'étais dans le vrai, mais à un point que je ne soupçonnais pas, car ils savaient, eux, pour la vivre, que je n'avais fait qu'effleurer la situation de violence qui leur était faite. Ces personnes me remerciaient donc comme si je leur apprenais tout, et dans le même temps, elles me signifiaient que je ne leur apprenais rien. Elles me signifiaient même que c'était elles qui avaient des choses à m'apprendre. Bref, elles me signifiaient, sans m'en tenir rigueur, bien au contraire, que mes écrits ne valaient pour elles pas tant pour ce qu'ils disaient que pour le fait que c'était moi, un blanc, qui parlait. Ce que ces personnes trouvaient dans mes textes n'était pas de l'ordre de la connaissance, mais de la reconnaissance. Ces textes ne venaient pas combler un manque de savoir. Ils levaient ou contribuaient à lever un interdit. Certains me demandaient même purement et simplement de parler à leur place. Et dans tous les cas, que ce soit pour me demander de parler ou pour simplement me remercier d'avoir parlé, on me disait, parfois indirectement ou parfois très explicitement, « Quand c'est vous qui le dites, c'est pas pareil. » Et plus explicitement encore, « Moi, je peux pas le dire. Si je le dis, on me répond que je suis parano et que je suis dans la victimisation. » Ou encore, dans le cas de l'affaire du voile, « Si moi je le dis, on croit que c'est du double discours. » J'ai définitivement compris, à partir de ces expériences, que j'étais un blanc et que être blanc, c'est être légitime, crédible, pris au sérieux, comme ne peuvent pas l'être des non-blancs. À propos d'être légitime, là encore, je pourrais aussi parler, en des termes voisins, de ce que signifie dans la France d'aujourd'hui être hétérosexuel, de sexe masculin et d'origine bourgeoise. Il y a beaucoup de points communs avec le statut de blanc, et notamment celui-ci. Quand on a l'une de ces propriétés, et a fortiori quand on les a toutes, on est légitime. J'entends par là qu'on se sent autorisé à penser, à parler, à viser des objectifs élevés, des diplômes et des professions prestigieuses. Qu'on bénéficie ensuite de davantage de ressources pour y parvenir, et que l'on rencontre moins d'obstacles. Alors que, lorsqu'on est une femme, un homo, un prolo, un noir, un arabe, le simple fait de s'autoriser à penser, imaginer, prétendre à tel ou tel titre de prestige, est une conquête qui exige des efforts considérables. Ce que mon expérience de mec hétéro blanc fils de prof a de spécifique, quand je la confronte à celle de tous les homo, prolo, femmes non blancs que j'ai rencontrés dans mon existence, c'est avant tout cela. Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu un jour de véritables doutes sur le bien fondé de mes ambitions scolaires, professionnelles, intellectuelles et même existentielles. Contrairement à un non-blanc, je n'ai jamais eu à me battre contre l'idée que telle ou telle étude, telle ou telle ambition, tel ou tel métier, activité, par exemple étudier la philosophie, l'enseigner, publier des textes, publier des articles, des livres ou parler en public, comme j'ai pu le faire au Parlement des indigènes, ce n'était pas pour moi. Je me suis même jamais vraiment posé la question. Je crois pourtant être quelqu'un qui se pose des questions, mais pas celle-là. Je ne crois pourtant pas être, comme individu, quelqu'un de particulièrement sûr de lui, ni de particulièrement prétentieux. Mais justement, être blanc, c'est ça. Parce que je suis blanc, je n'ai pas besoin d'avoir ou de développer, en tant qu'individu, ces traits de personnalité-là. Je n'ai pas à être quelqu'un de particulièrement prétentieux. Mon statut de mec blanc hétéro fils de prof le fait pour moi. Je n'ai pas à être quelqu'un de particulièrement sûr de lui ou vaniteux pour m'autoriser à penser ou à parler. Mon statut d'hétéro blanc fils de prof suffit à m'autoriser à peu près tout. Je n'ai pas à être quelqu'un de particulièrement ambitieux pour ambitionner les plus hautes études, les plus hautes carrières. Mon statut de bourgeois blanc hétéro m'amène à les ambitionner tout naturellement. Le grand bénéfice personnel que me procure cette république bourgeoise raciste et hétérosexiste dans laquelle je suis née et dans laquelle je vis encore, le bénéfice qu'elle procure à n'importe quel bourgeois blanc de sexe masculin et de tendance hétérosexuelle, et qu'elle ne procure pas moins aux plus antiracistes et aux plus antisexistes qu'aux plus racistes et aux plus hétérosexistes, c'est celui-là. Je peux tout ambitionner sans même m'abaisser à devenir un ambitieux. Je peux gagner beaucoup sans m'abaisser à devenir un gagneur. Une carrière m'est ouverte, même si je ne suis pas un carriériste. Je peux arriver à quelque chose sans pour cela devoir être un arriviste. Alors, on m'objectera le fameux « mérite ». Comme Alain Finkielkraut passe son temps à le répéter, cette République ne m'a pas tout donné. J'ai dû travailler pour réussir mes études, pour réussir mes examens, mes concours de recrutement ou pour écrire des livres acceptés par des éditeurs, bien sûr. Mais je sais aussi que pour réussir le même type de parcours, un non-blanc, ou une femme, ou un prolo, ou un homo, doit mobiliser deux fois plus de qualités individuelles. Alors, ça peut aussi se dire autrement. Je dois mobiliser deux fois moins. J'ai dû travailler beaucoup pour réussir tout ce que j'ai réussi. Mais deux fois moins que des prolos, des femmes ou des non-blancs. Ou, si on croit au don naturel plutôt qu'au travail, il a bien fallu que je sois naturellement douée pour réussir ce que j'ai réussi. Mais deux fois moins douée que les non-blancs qui ont réussi les mêmes choses que moi. J'ai dû faire deux fois moins d'efforts pour réussir ce que j'entreprenais. Mais auparavant, j'avais déjà dû faire 10 fois moins d'efforts pour seulement penser à l'entreprendre, pour m'autoriser à avoir ces aspirations. Pour s'autoriser la même chose, un non-blanc, comme une femme, un homo, un prolo, doit développer une personnalité particulière, avec des qualités ou des défauts particuliers. Il doit être tout ce que je n'ai pas eu à être. Exceptionnellement intelligent, courageux, persévérant, confiant, inébranlable, ou bien prétentieux, ambitieux, arriviste, ou encore téméraire, ou enfin complètement fou. Être un bourgeois blanc hétérosexuel me met à l'abri de cette folie. La question blanche, quatrième partie. Que faire de ce qu'on a fait de nous ? Cette dernière partie récapitule les trois grandes modalités sous lesquelles la condition blanche peut être vécue. L'adhésion, la dénégation ou la conscientisation, laquelle peut être vécue à son tour sous trois modalités. Le cynisme, la mauvaise conscience ou la traîtrise. Par élimination, moi, je choisis la traîtrise. Voici pourquoi. Cette condition blanche que je viens d'évoquer, chaque blanc a le choix de la vivre sous différents modes, impliquant chacun une forme spécifique de mal-être. Surtout lorsque, officiellement, notre système de valeurs se fonde sur la liberté, l'égalité et la fraternité. Trois grandes options se dégagent. D'abord, l'adhésion, qui consiste à faire corps avec son rôle de blanc, sans la moindre distance, sans le moindre recul, ni la moindre réflexivité, et à mépriser tranquillement les non-blancs, mais alors, le mal-être nous rattrape forcément, sous la forme d'une peur panique, à chaque fois que des non-blancs relèvent la tête et viennent nous rappeler qu'ils existent, qu'ils sont là et qu'ils sont nos égaux. Ensuite, la dénégation. La dénégation, c'est « il n'y a pas de couleur, blanc et noir c'est pareil, il n'y a qu'une seule race, la race humaine ». Mais là encore, le mal-être nous rattrape. À chaque fois que quelqu'un vient nous mettre sous les yeux nos privilèges de blanc, à chaque fois que quelqu'un nous appelle blanc, à chaque fois que le mot blanc est prononcé. Enfin, il y a la conscientisation, qui consiste à assumer sa condition de blanc, en considérant que le blanc n'existe certes pas comme race au sens biologique du terme, mais bel et bien comme croyance et comme rang social. Cette prise de conscience ouvre, à son tour, sur trois modes d'existence. Sur lesquels on peut se fixer, mais entre lesquels on peut aussi hésiter ou naviguer sans forcément en avoir une pleine conscience et une pleine maîtrise. La première possibilité, qui est plutôt rare, c'est le cynisme. Ça donne quelque chose comme « je sais que j'occupe une place privilégiée, je sais que je n'ai eu qu'à naître blanc, comme sur d'autres plans je n'ai eu qu'à naître mec, hétéro, bourgeois, pour occuper cette place privilégiée ». Je jouis de mon privilège, et tant pis pour les non-blancs, la liberté, l'égalité, la fraternité, je sais que c'est du vent, mais la conscience de cette imposture ne m'empêche pas de vivre. Plus fréquente est la seconde option, qui est la mauvaise conscience. Alors la mauvaise conscience, ça ne fait pas avancer la situation des non-blancs, mais à tout prendre, elle me paraît être une posture subjective moins écœurante que la bonne conscience et l'arrogance qui prédominent dans ce pays, jusque dans les milieux progressistes et antiracistes. La dernière solution, enfin, consiste à être autant que possible aux côtés des sans-papiers, des filles voilées exclues de l'école, des émeutiers emprisonnés, de tous ceux qui luttent contre l'impunité policière, des indigènes de la République, à être en somme partout où des non-blancs se réunissent pour détruire la domination blanche. Cette dernière option est à mes yeux la meilleure. Elle consiste à être non pas un blanc honteux ou un blanc complexé, comme mes adversaires m'accusent de l'être, mais un traître blanc. Il ne s'agit pas de détester sa couleur ou de détester les siens, mais de détester son privilège et le système social sur lequel il est fondé. Éloge de la traîtrise. Cette traîtrise est pour moi la meilleure solution. Alors, le passage à l'ennemi est certes immoral lorsqu'on est issu d'une classe dominée et qu'on collabore avec la classe dominante. Mais c'est un acte moral, d'ailleurs le seul acte moral possible, lorsqu'on est issu de la classe dominante et qu'on ne veut vivre ni dans le mensonge, ni dans le cynisme, ni dans l'impuissance et la mauvaise conscience. Une telle conclusion laisse bien sûr en suspens une question énorme, celle des modalités concrètes de la traîtrise. De nombreux problèmes pratiques se posent, comme le problème complexe que certains ont appelé la place des Blancs dans les luttes d'auto-émancipation des non-Blancs. Cette place est tout aussi problématique que celle des hommes dans les mouvements féministes, et celle des hétéros dans les mouvements homosexuels, ou celle des bourgeois dans les mouvements ouvriers. Et si un soutien et des actions en commun peuvent être nécessaires, des moments de non-mixité le sont tout autant. Une série d'écueils menace sans cesse. Par exemple, confondre soutien, participation et leadership. Ou alors confondre identification partielle et identification totale. Se croire arabe, noir, musulman, quand on ne l'est pas soi-même et qu'on ne subit pas les mêmes discriminations qui vont avec. Ou alors prendre la grosse tête carrément, se complaire dans la posture du juste, du vertueux, tirer un profit symbolique ou même matériel de la reconnaissance des non-blancs et de l'admiration des blancs conscients. Il faut au contraire accepter de se voir renvoyer à la figure son statut de blanc de la part des non-blancs soucieux de nous rappeler cette réalité que nous avons toujours tendance à oublier ou à mésestimer. Ce sont eux qui morflent et pas nous. Bref, une fois prononcés les mots « traîtrise »,« passage à l'ennemi »,« lutte politique pour la destruction de la domination blanche », tout reste à dire. Tout reste à faire, tout reste à construire. Les difficultés, les problèmes, les contradictions, tout ça, ça ne manque pas. Et le mal-être peut nous accompagner de bout en bout, sous de multiples formes. On peut se sentir épuisé parce qu'on est comme dans un combat où on est avec David contre Goliath. On peut se sentir découragé. Ou bien on peut ressentir la nécessité épuisante d'un perpétuel retour sur soi. La place des Blancs, payante. Cette réponse, qu'un ami non-blanc avait fait en mai 2005 lors de la première Agora des indigènes de la République à Nanterre, n'est pas une simple plaisanterie. Elle signifie d'abord que la place d'un blanc aux côtés d'un mouvement de non-blancs en lutte, ou en son sein, contre la domination blanche, n'est pas gratuite, qu'elle n'est ni acquise, ni confortable. Parce qu'il existe un contentieux ancien et profond entre les militants non-blancs et leurs amis blancs, et que ce consensus pèse forcément et légitimement sur la relation de compagnonnage politique, notamment sous la forme d'un soupçon de paternalisme ou, pour reprendre la formule d'Aimé Césaire, de fraternalisme. La place payante signifie aussi que les autres blancs, ceux qui croient en leur supériorité et font corps avec leurs privilèges, mais aussi ceux qui dénient ce privilège et professent qu'il n'y a pas de race, supporte mal notre trahison et nous la font payer. Alors, le prix n'est pas forcément très élevé. On peut en rester à des simples quolibets, ceux que j'ai déjà évoqués, complexes, culpabilité postcoloniale, bounty à l'envers, islamophile, etc. Mais il est parfois plus élevé. Parfois, c'est des calomnies, de l'ostracisme. La place des Blancs, enfin, est payante dans un tout autre sens, à la fois plus positif et malgré tout piégeant. L'effort de remise en question et l'investissement militant aux côtés des non-blancs sont des efforts payants. Ils sont payés en retour par des gratifications essentiellement symboliques, notamment cette reconnaissance énorme que renvoient des non-blancs avec qui nous luttons, qui monte facilement à la tête et dans laquelle nous pouvons aussi nous perdre. Bref, je sais que cette manière-là de vivre ma condition de blanc me pose une multitude de questions, auxquelles je n'ai pas forcément de réponse, et de problèmes auxquels je ne suis pas préparée. Mais je sais aussi qu'il y a une joie dans la lutte. Et parmi toutes les manières de vivre ma condition blanche, c'est celle-là que je choisis, par élimination, parce que toutes les autres me dégoûtent.